Les Cascodeurs Podcast, épisode 244. L'épisode maudit, enregistré le 11 décembre 2020.
Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 244. Nous sommes le 11 décembre 2020.
Ouais. Donc c'est le dernier épisode News 2020 alors ?
Non, peut-être.
Wow. Peut-être
pas. Non, par contre, on a une petite idée derrière la tête. On va voir si on réussit à la faire. C'est d'avoir des épisodes dédiés pour loi, société et organisation, puisque ça prenait de plus en plus de place, et puis on voulait pas trop dépasser au-delà des 3h30 de podcast. Donc l'idée, c'est d'essayer de justement d'avoir un épisode intermédiaire dédié à ça. Et donc avec Audrey, là, on va essayer de monter ça, et on va voir. Bah, idéalement, on va le faire ça en décembre, et puis bah, donnez-nous votre retour sur la mailing list, j'imagine. Mais bon, attendez de l'avoir écouté.
Ou sur Twitter, ou ouais. Voilà, dites-nous si ça vous plaît. Si, Et alors du coup, les garçons, on est d'accord, on fait une heure là cette fois. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Hein,
55 minutes.
Allez. On va voir. Bon, ben on va y aller alors. Alors, revenons 20 minutes en arrière. Alors, premièrement, un grand merci à Marc Vrobel. Qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit ouais, ça serait cool si quelqu'un pouvait migrer le site web vers Hugo ou vers Jekyll, parce qu'on a un truc mais qui est plus maintenu, et là, en gros, il fallait que je fasse confiance à ma publication et puis je pouvais vérifier en prod. Donc c'était devenu moins top. Et donc Marc s'est pris au jeu parce qu'il a fait une migration Jekyll lui-même. Il se trouve quelque temps avant, et donc il a tout repris. Donc c'est le même design. Beaucoup moins de fautes d'orthographe, parce que en plus il a relu tous les news et puis passé un correcteur orthographique dessus pour les améliorer, donc merci. Et surtout, bah, testez le flux RSS par exemple. Si vous n'avez pas eu la notification de cet épisode, et ben dites-le nous. Alors c'est un peu le paradoxe, que peut-être que vous saurez pas, mais bon. Voilà, donc enfin, si vous voyez des petits soucis avec votre flux RSS, dites-le nous. Normalement, on a bien regardé avec Marc, et puis c'est vraiment la même chose. En tout cas, grand merci à Marc.
Merci.
Merci super, beaucoup.
Ouais.
Super. On t'envoie des emoji cœurs.
Des emoji cœurs, ouais. Rouge.
Ouais, parce que ouais, des emojis foie tout de suite.
Ouais, ça c'est Noël ça. Alors, bon, on va passer au langage. On peut pas faire de blagues, on n'a pas le temps là, faut qu'on tienne dans une heure.
J'ai foutu la pression là.
Ouais, c'est ça. En langage, Kotlin 1.4.20 est sorti avec, ça reste une micro, mais avec quelques news.
Ouais. Donc quelques news côté JVM. On peut maintenant cibler Java 15. On a l'intégration du invoke dynamic de la concaténation de strings avec invoke dynamic.
Ouais. Celui-là, c'est intéressant, c'est que depuis Java 9, en fait, la JVM elle-même utilise invoke dynamic pour faire la concaténation de chaînes quand on utilise Java. Et donc là, Kotlin s'est mis dans de plus en plus de cas à utiliser justement la même technique, qui est plus rapide et plus flexible.
Voilà. Et beaucoup de choses côté Kotlin JS, parce que il y a pas mal de modifications qui ont été apportées au DSL Gradle pour simplifier la configuration. Donc, par exemple, il y a un nouveau bloc de configuration pour Webpack où on va pouvoir définir des paramètres communs pour tout ce qui est Webpack Task, Run Task, Test Task. Vous allez pouvoir ajouter directement des entrées à votre package JSON depuis le script Gradle. Il y a deux intégrations, alors qui sont expérimentales pour le moment, mais il y a l'intégration de la fonctionnalité de résolution des dépendances sélectives de Yarn, ce qui permet de garder la main sur les dépendances transitives. Et puis, il y a la possibilité également de désactiver ce qu'ils appellent le workspace granulaire. En fait, ce qui va se passer, c'est que par défaut, il y a que les dépendances qui sont nécessaires pour une tâche Gradle en particulier qui sont installées. Mais ça peut poser problème si, par exemple, vous exécutez plusieurs process Gradle en parallèle. Donc, maintenant, vous avez la possibilité de le désactiver. Alors, expérimental aussi. Il y a trois nouveaux templates, ça, je trouvais ça assez cool pour vous aider à démarrer. Donc il y a une app navigateur en barebone.js, il y a une application React et puis il y a une application Node.js. Et il y a aussi un nouveau mode qui va vous permettre d'ignorer les erreurs de compilation si vous êtes par exemple en train de faire une grosse refacto de code côté JS et que vous voulez la tester, vous allez pouvoir lui dire d'ignorer soit les erreurs sémantiques ou les erreurs de syntaxe. Alors ça c'est expérimental également.
En bon cynique de ma part, je trouvais ça trop bien qu'ils disaient « Oh, on a une super nouvelle fonctionnalité, vous pouvez ignorer les erreurs de compile ». Ça m'a bien fait marrer.
Quelques petites nouveautés au niveau de Kotlin native, c'est l'escape analysis qui est rendu plus efficace. Donc ça, c'est en fait une technique du compilo qui permet, qui va décider si un objet va être alloué dans la stack ou s'il va le balancer dans le heap. Et donc ça, c'était déjà en place, mais ils l'ont amélioré. Il y a maintenant un wrapping des exceptions Objective-C qui sont balancées au runtime. Dans les librairies standards, il y a une extension qui est expérimentale pour le moment de Java NIO FilePass, qui se trouve dans Kotlin IOPass. Et la fonction string replace a été améliorée sur les suggestions des utilisateurs, donc elle a maintenant une variable case sensitive. Et puis bah, l'autre grosse news à côté de cette version du langage, c'est que André Breslav va passer le lead à Roman Elizarov. Là, le langage a fêté les 10 ans du premier commit d'André. Et donc,
et pour fêter ça, il part.
Il va prendre des vacances bien méritées, voilà.
Mais il quitte JetBrains, c'est ça, hein?
Non, il sera toujours là en consultation, il sera toujours là sur les décisions majeures, mais simplement le lead devient Roman Elizarov et lui il va prendre un petit peu de temps pour lui.
Ouais. Et puis maintenant avec le confinement, on peut plus dire je vais passer plus de temps avec ma famille parce que on n'en peut plus, mais sinon.
Parce que t'en passes déjà trop, c'est ça? Un message à faire passer. Tu veux que j'appelle Caro? Ouais, c'est ça.
Voilà, sinon, Adopt OpenJDK accueille Dragonwell. Alors moi, je connaissais pas, mais Dragonwell, c'est en fait la distribution OpenJDK de Alibaba qui passe le TCK, un peu comme plein de gens ont leur distribution maintenant, AWS avec Oreto, etc. Red Hat historique, Azul, etc. Dragonwell, les optimisations qu'ils ont fait, c'est surtout pour des applications à grosse scalabilité. Puisque Alibaba, ils ont ces approches de scalabilité un peu comme les classiques Google, Amazon qu'on cite plus souvent. Et puis ils ont aussi visiblement une implémentation de coroutine à eux en fait dans la JVM. Donc c'est intéressant de voir. Bref, en tout cas, vous pouvez aller sur Adopt OpenJDK et puis il y aura la capacité d'aller choisir Dragonwell comme option de OpenJDK.
Faites gaffe quand même parce que si vous allez sur leur GitHub, il y a quand même une issue sur 20 qui est écrite en chinois, donc c'est toujours marrant de voir les titres en chinois et les mecs qui se ils commentent, etc. Et là, on se dit flûte. Voilà, donc il y a quelques issues que vous risquez de pas comprendre si vous n'êtes pas fluente en chinois.
D'accord. Ah, mais comme on est fluente en français, ça va.
Oui, je pense qu'ils doivent se dire pareil aussi. Ouais.
Alors, on va passer aux librairies. Déjà, j'avais oublié de l'annoncer, mais il y a Julien Ponche qui a écrit Vertex in Action. Et attendez, oui, alors ce livre, déjà toute la série des In Action, c'est des bouquins qui je trouve assez poussés, assez réfléchis, pas mal revus, donc ils ont ils ont en général une bonne qualité. Et puis, ça explique les fondamentaux de la programmation réactive, l'approche Vertex, et puis concrètement, dans les microservices, comment vous allez utiliser tout cet ensemble-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez prendre une copie de Vertex in Action pour Noël.
Alors moi, j'ai acheté le livre, mais je l'ai pas lu encore. Mais je l'avais même reçu en EAP quelques semaines avant.
Ouais, avec ça.
Voilà, c'est dans ma to-do pour le 31 au soir.
Et sinon, il y a la sortie de Vertex 4 qui donc est sortie, du le fait qu'on parle de la sortie. Il n'y a pas de blog super bien expliqué pour les news, mais du coup, j'ai demandé à des gens qui connaissaient. Et voilà les gros points intéressants de Vertex 4. Déjà, l'API de base s'appuie sur les futurs et les promesses et plus les callbacks. Et on connaît le fameux callback L où on a des choses imbriquées, indentées jusqu'à l'infini. Donc, si vous mettez 80 lignes de 80 caractères par ligne, vous avez un problème de scalabilité au bout d'un moment. Voilà. Réimplémentation complète des clients, notamment les clients fondamentaux du genre HTTP. Et l'idée, c'était de il y en avait beaucoup qui utilisaient encore des concepts et des approches qui venaient de Vertex 1, donc qui datent sérieusement. Du coup, là, c'est un gros travail de nettoyage et d'embrasser les approches qui leur permettent d'être plus ouverts vers le futur. Notamment, par exemple, l'approche d'avant, c'était pas facile de pouvoir mettre en place devant l'utilisation de type Eric Java ou de type Nutini. Et donc là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Il y a la propagation des contextes qui est implémentée dans le core. Donc ça, va être un gros avantage quand vous écrivez des applications pour passer de l'info. Donc évidemment, mettez pas ça dans des threads locales. Ça ne marche pas en approche réactive. Donc là, voilà, maintenant, vous avez un outil spécifique pour ça.
Ouais. Mais alors, attends, est-ce que c'est l'implémentation de contexte propagation de micro-profil ou pas, alors?
Non, non, je pense
c'est un truc à part.
C'est une AE, ouais. Et puis, pareil, des nouveaux clients qui ont été réécrits, que ça soit Redis, Hotn, Cassandra, etc. Soit parce que, pareil, on parle d'évolution des API vers le futur pour Vertex, soit les services eux-mêmes avaient évolué, Cassandra est passé de la version X à Y, et du coup, il y a des améliorations à faire. Pareil pour OpenAPI et JSON Schema. Voilà, c'était la parenthèse Vertex.
Mais alors justement, vu qu'on en parle tout de suite en dessous là, vous venez de sortir Reactive Hibernate et RestEasy, qui les deux se basent sur Vertex, si je dis pas de bêtises. C'était justement, est-ce qu'il y a eu des modifs dans Vertex 4 pour Reactive Hibernate et RestEasy ou pas?
Tout sort
au même moment là.
Ouais, non, on les a backportés dans 3.9, ce dont on avait vraiment besoin, et c'est effectivement pas de chance, mais il y avait ce travail de fond vers Vertex 4, mais après, quand est-ce que ça va arriver était, à l'époque, on faisait tous ces travaux, était un peu plus dans l'inconnu, donc on avait choisi de backporter les points qui étaient bloquants pour ces fameuses librairies.
D'accord.
Voilà, et sachant que Vertex 4, l'intégration dans Quarkus, là, on... le plan qui est proposé de mémoire, c'est de travailler par étapes entre maintenant et jusqu'à avril. Voilà, il y a tout un écosystème à faire avancer vers cette version et des petits à aligner. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Alors sinon, il y a les gens de JetBrains, ils sont un peu en feu hein, quand même en ce moment.
C'est vrai qu'ils sont
complètement
partout, ouais. Ouais.
Et ils ont sorti, donc on parlera après dans un contexte plus général, mais ils ont sorti un binding Java pour une API, pour une librairie qui s'appelle Skia, qui est une librairie de dessin en gros 2D, qui est utilisée par Chrome, Firefox et plein d'autres systèmes de mémoire.
C'est ça.
Et Skia, du coup, c'est le binding Java pour pouvoir l'utiliser en Java cette librairie derrière. Donc ça fait du JNI ou autre chose. Ils ont joué avec, les performances sont bonnes. Ils ont même, par exemple, réimplémenté, je crois que c'est le AWT ou le Swing, machin 2D qui est vraiment le truc de base. Et ça fonctionne. Ils ont un AWT qui fonctionne avec ce qu'il y a en dessous. Voilà. Il y avait d'autres choses à rajouter là-dessus?
Non. L'article, moi, me fait rire parce qu'il est assez opinionated.
D'ailleurs, je comprends jamais entre Skija, Skion et Skia. Enfin, bref, il y a des noms, il y a plusieurs noms. Je sais pas s'ils sont hyper clairs sur le nom de leur projet, en fait. Au final, ouais. Moi, j'ai pas tout compris, en tout cas.
Moi, c'est plus le côté, ça tape quand même très, très fort sur les librairies existantes, quoi.
Ouais,
c'est vrai que leur blog est rigolo. Il dit, je sais plus où c'est, mais est-ce que les librairies graphiques Java sont toutes faites pour échouer?
Ah oui, entre
JavaFX, Swing, AWT, etc., etc. Bon,
et il dit bien, non, c'est juste que celles-ci, elles ont des problèmes, mais c'est leur problème.
Ouais. Non, ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est pas systémique à la plateforme. Ah voilà, Skikio.
Et au contraire, ouais, même, parce que à un moment, il dit pourquoi pas utiliser Electron, et il dit JS, c'est super cool, mais en fait, la JVM est vachement plus puissante, et donc autant profiter de la JVM.
Ouais. Et donc, il parle vraiment de la partie dessin. Et après, ce qu'il faut pour tout un truc général, c'est un UI toolkit. Et là, on a vu qu'il y a Compose Desktop, donc qui est un fork du Android Compose, qu'ils ont fait pour l'adapter au niveau des applications desktop. Et il y a un truc pour la gestion des fenêtres.
Jetpack Compose, tu veux dire?
Ouais, Jetpack Compose. Et puis Skikio, qui est pour eux le futur pour le Windows Management et l'intégration avec le système d'exploitation. Voilà, donc il y a ces trois composants, et effectivement, je sais pas qui l'a mis, mais on peut imaginer qu'ils veulent à un terme se dire on veut pas être dépendant de Swing pour IntelliJ, et ça nous rend...
Ouais, c'est même plus que ça, hein. C'est que j'ai un peu l'impression qu'ils ont décidé de le tuer. Effectivement, je pense qu'on le verra après, parce que dans la partie web, et que j'ai renommée Web et Front pour l'occasion, on va en reparler, mais ils ont clairement... la mort de Swing en target.
Ouais.
Eux, ils veulent plus s'en servir et je pense qu'ils veulent aussi propager ça.
Ouais. Ok, ensuite, Micronautes 2.2 est sorti avec le support de MQTT pour le messaging, le support de la génération des images natives et de Docker dans leur plugin Maven. Et puis, dans leur générateur de projet, il y a la capacité, donc ça s'appelle Micronautes Launch, et ça permet de faire un push to GitHub directement. Donc, soit vous téléchargez Zip, soit vous publiez directement sur GitHub le template du projet. Voilà.
Par contre, ils ont aussi, en preview, hein, ils ont le support R2 DBC, on en avait parlé là. Alors, je sais pas pour quelle base de données, mais pareil, ils commencent aussi à faire comme vous, apparemment avec Hibernate Reactive, puisqu'ils ont leur Micronautes Data, que je connais pas bien. Mais et donc là, ils ont un support réactif avec les drivers R2 DBC.
D'accord.
Mais c'est en preview pour cette 2.2.
D'accord. Mais après R2DBC, là, je trouve pas les bases de données supportées évidemment rapidement, mais c'est après s'ils ont le support R2DBC, derrière ils héritent de tous les gens qui ont les drivers R2DBC.
Oui, H2, MySQL, Postgres, SQL Server et Oracle, voilà.
Oracle ou Oracle
pas, ça arrive. Attends.
Non c'est ouais, Spanner.
Oracle, je crois que c'est Avenir.
Spanner, ouais. H2, MariaDB, MS SQL, MySQL, Postgres et Oracle, c'est Avenir.
Ah oui, oui.
Ok. Sinon, je crois qu'on en avait parlé avant. Il y avait Nashorn qui avait été enlevé en fait de. C'est quoi? C'est JDK 15 justement. Nashorn, c'est le moteur d'interprétation et de JavaScript dans la JVM. Donc ça embêtait certains qui avaient des petites intégrations JavaScript et qui voulaient pouvoir les faire tourner dans leur projet. Et bah bonne nouvelle, Nashorn du coup a été repris par la communauté et devient un projet indépendant qui peut être utilisé donc à partir de la version 15 et qui est sur Maven Central. Et donc ça pour ceux qui voulaient utiliser ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait en gros pas de solution idéale à part aller faire du binding avec V8 et d'embarquer V8 en parallèle de votre JVM. Enfin bref, c'était pas top. Voilà. Donc bah justement, on en parlait un petit peu, mais donc il y a deux news réactives. La première, c'est qu'effectivement Hibernate Reactive est sorti en version bêta. Et donc les drivers, c'est ceux de Vertex. Donc c'est pas les drivers R2DBC, mais c'est les drivers de Vertex avec Postgres, MySQL, SQL Server de mémoire, etc. Pas Oracle. Et l'idée du projet Hibernate Reactive, c'est de regarder l'API JPA et de fournir une API réactive équivalente aux opérations qu'il y a dans JPA. De réutiliser la logique de mapping avec les annotations telles que vous la connaissez. Donc, en fait, c'est le même moteur qui fait ça en dessous. Et après, d'exposer ça avec des API non bloquantes. Et aujourd'hui, il y a l'implémentation completion stage et l'implémentation mutiny. Et ça, du coup, ça fait partie d'une stack réactive. Donc, la partie data, donc on a les drivers, on a, disons, la librairie d'accès. Donc, tu parlais de Micronautes Data qui s'approche sur ce même front. Et partie front, il y a Rest Easy qui, en fait, l'équipe est repartie, pareil, de pas de zéro parce qu'ils ont repris du code de REST Easy, mais il y a REST Easy Reactive qui est une implémentation 100% non bloquante de JAX-RS. Et on a fait un peu inspiré par Quarkus, donc un peu comme CDI où l'idée c'est on implémente voilà tout ce qui est utile. Et après il y a quelques éléments de la spec qui sont vraiment bloquants par nature, notamment les intercepteurs sur lesquels il y a des API alternatives. Voilà. Donc l'équipe à la stack, donc ça passe tout le TCK de JAX-RS parmi les features qu'ils voulaient implémenter. Voilà, avec une nouvelle approche de filtre non bloquant, et puis ça s'appuie sur Vertex Route, et c'est à peu près le même niveau de performance. On a peut-être mettons 5% d'écart ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment le même ordre de grandeur. Donc,
mais alors justement, lorsque j'ai vu la news, ouais. Tu te demandes un petit peu quand est-ce que tu utilises l'un et l'autre. On a l'impression que Vertex Route, en fait, ça va devenir un peu caché.
Il y a une différence philosophique. La première, qui est une approche déclarative de la façon dont tu décris les choses, avec des annotations qui disent, bah, dans cette méthode déclarativement, on va faire ça. Mais après, il y a un certain nombre de développeurs qui sont contre ce qu'ils perçoivent comme de la magie, qui comprennent pas ou qui cachent trop de choses, et qui préfèrent justement les approches Vertex qui sont explicites. Donc Vertex, quand tu veux rajouter une route, tu fais, je sais pas l'API, mais bon, t'as ton routeur, tu fais point add route, et puis tu passes le chemin, et puis après l'implémentation qui va exister derrière ce chemin-là. Donc c'est une approche entre guillemets moins magique qu'une approche avec un add get à la JAX-RS pour certains. Du coup, en fonction de ton choix philosophique, tu vas choisir l'un versus l'autre. Ça répond à ta question ?
Oui, oui.
Voilà. Qui n'est pas exactement la même que je t'ai donnée lundi quand on a fait le Quarkus Insights, mais c'est du coup j'ai réfléchi un peu plus à ça et bon, voilà.
Okay. C'est pour ça que je te reposais la question.
Ah ben voilà. On va passer à l'infrastructure. Bon, qui a acheté un Apple M1 ?
Apparemment, Josh Long.
Ah bon ? D'accord.
Je sais pas, mais il a posté quelques photos hier avant-hier. Donc, il était tout fier avec son nouveau MacBook M1.
D'accord. Donc en parlant de ça, donc M1 c'est basé sur ARM, mais bon c'est ce qu'ils appellent le Apple Silicon, donc avec des extensions spécifiques à Apple. Et évidemment du coup c'est pas du x86, donc Docker desktop du coup travaille pour faire le support de M1. Et ce qu'ils expliquaient c'est qu'autant le container lui-même on peut le faire tourner avec le moteur d'interprétation qui s'appelle Rosetta 2, qui est chez Apple. Donc, on fait tourner les containers avec Rosetta 2. Autant, ils avaient besoin d'adapter une partie de l'écosystème qu'ils utilisent, Go, Electron, et surtout l'intégration avec l'hyperviseur macOS. Donc, ils sont en chemin pour travailler là-dessus. Mais il y a encore du travail, mais en tout cas,
ils ont fait une annonce hier. Hein. Hier, ils ont eu. Ouais, ouais. Hier, il y a eu le Docker à flûte. Ouais, voilà. Que j'ai un peu écouté au début, puis j'ai lâché à la fin parce que ma fille voulait que je lui explique des trucs en mathématiques, donc j'ai un peu lâché. Mais il faisait une démo. Alors, c'est peut-être pas sec, mais c'était une des dernières démos où le gars montre le support Docker sur M1. Voilà, donc a priori, ça commence à fonctionner pas mal.
Ouais. Sachant que moi, je connais pas bien, mais Docker, ils veulent aussi se rendre multiplateforme, donc ils ont un truc qui s'appelle BuildX ou un truc comme ça, qui va te permettre de dire, bah voilà, là, je te target M1 comme moteur, là, je target x86, là, je target autre chose. Donc, c'est rendre Docker non pas lié à la notion de Linux sur x86, etc., ou Windows, par exemple, voilà, de donner une abstraction au niveau des cibles de l'image. Je crois, hein, je parle juste de à partir d'une ligne que j'ai lue quelque part sur Internet. Donc,
Et pareil hier là sur le slide, leur slide. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout donc écouté, mais ils parlaient de Docker Compose ou Kubernetes. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en train de bosser un petit peu là-dessus. Le Docker Compose, qui est un peu le Kubernetes du pauvre, où on met 4-5 trucs et ça fait marcher. Et puis là, je sais pas, ils annonçaient ça, Docker Compose for Kubernetes. Donc bon,
d'accord.
Je vous dis ça, ça date d'hier et malheureusement, j'ai juste vu les slides de loin, mais j'ai pas pu.
Après, Nicolas Deloff, il avait bossé sur la spec Docker Compose, c'est-à-dire d'en définir une spec et du coup d'avoir plusieurs cibles, c'est-à-dire on définit ce qu'on veut et après l'implémentation du déploiement, elle peut être Kubernetes, Mesos, enfin, ce qu'on veut.
Ça sent un épisode d'interview, ça.
Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, ouais, tiens. Il faudrait le rajouter dans la liste, ouais. Une bonne idée. En parlant de ça toujours, donc Docker, enfin en tout cas Kubernetes a déprécié le moteur qui s'appelait c'est Docker Shim ou un truc comme ça. Enfin, bref, ouais. Kubernetes ne permet plus d'utiliser Docker en tant que moteur d'exécution des containers. Quelqu'un veut
prendre ou... panique.
Ouais, don't panic. Donc c'est pas la fin du monde. Alors l'argumentation, c'est de dire voilà, Kubernetes en fait utilise le moteur de container, mais il a pas besoin de toutes les intégrations Docker pour que notamment l'interaction développeur avec Docker Desktop soit super belle. Donc il y avait tout un espace qui était pas utile pour Kubernetes. Et puis l'autre, c'est que je me rappelle plus le nom de la spec,
c'est la CRI, la Container Runtime Interface.
Voilà. Donc la CRI, elle a été proposée par Docker, mais elle n'est pas implémentée par Docker, de ce que j'ai compris. Ce qui fait qu'ils avaient besoin d'une alternative.
En fait, elle est...
Vas-y.
Oui, voilà, elle est pas implémentée par Docker Shim, qui donc ce qui est exposé et ce qui posait un problème à Kubernetes, parce que ça faisait qu'ils avaient, en gros, ils étaient un peu obligés de faire un contournement à chaque fois pour avoir accès à ce qui les intéresse vraiment, c'est-à-dire le runtime de container.
Voilà. Du coup, Kubernetes maintenant, utilise Containerd. Voilà. Mais n'ayez pas peur. Donc Mirandis, alors voilà, vous rappelez, alors attendez, parce qu'il faut bien se rappeler là, si vous n'avez pas suivi tous les
cases, c'est Dallas ton truc.
Et ouais, alors avant il y avait Docker, ensuite Docker il a dit on fait trop de choses, donc on va faire Docker Desktop qui est centré sur les développeurs avec la repository avec Docker Desktop, etc. Et puis il y avait Docker qui faisait la partie Kubernetes qui a été séparée et vendue à une boîte qui s'appelle Mirandis. Et donc là, Docker nouveau et Mirandis se sont alliés pour supporter Docker Shim en tant que projet indépendant. Donc, si vous aviez peur, vous allez quand même pouvoir réutiliser le moteur Docker dans Kubernetes grâce à ce projet indépendant. Donc, au final, tout va bien.
N'ayez pas peur.
Voilà.
De toute façon, ça sera pas effectif tout de suite. C'est-à-dire qu'on aura des warnings à partir de la 1.20 de Kubernetes, mais la suppression effective du support de Docker Shim, ce sera à partir de la 1.22. Donc ça laisse un petit peu de temps.
Oui, il disait une année. C'est ça, une année.
Je sais plus, j'ai plus le délai en tête, mais en fait, si vous êtes spécialement concerné si vous avez des trucs qui tournent sur des environnements managés chez des providers cloud, parce que effectivement, ils vont faire la mise à jour et que donc à un moment il va falloir migrer. Mais donc si vous avez des trucs chez Amazon, chez du Google Kubernetes. C'est surtout là où vous êtes concerné.
Ça dépend de vos usages, mais une image Docker, enfin une image qui a été construite par Docker, elle peut tourner dans du Kubernetes qui tourne avec un moteur Containerd. Normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est si vous avez des dépendances supplémentaires sur le moteur Docker, mais alors je sais pas pour quelle raison, j'avoue que ça me dépasse un petit peu, que là vous allez peut-être avoir des aspects de migration un peu plus problématiques. Ok, on va passer au cloud avec.
Qui est tombé? Cloud est tombé.
Le cloud est tombé en gros.
Le cloud
est tombé. Et il a plu. Il a plu sur Terre du coup. Ouais, tu m'en parles un peu?
Oh non, j'étais juste en train de voir les news effectivement. Ce qui m'a fait marrer, donc Amazon est tombé, hein, et Et donc là, il y a mille et un articles, il y a plein de blogs, des vidéos drôles en plus, qui vous expliquent, enfin qui expliquent aux personnes non techniques que souvent elles utilisent un truc qui est hébergé chez Amazon. Et donc tout le monde s'est mis à insulter les applications parce qu'elles fonctionnaient plus, alors que c'était Amazon derrière qui avait tombé pendant plus de 4 heures, il me semble. Donc il y a eu une grosse coupure et il y a des applications. Alors c'est rigolo parce que ils mettent une liste, hein, Flickr, et il y en a une qui m'a fait marrer, c'est iRobot, parce que moi j'ai aspirateur, j'ai un aspirateur Roomba, donc le fameux, la marque iRobot. Et je me demande si j'avais passé l'aspi à ce moment-là, est-ce que mon robot se serait éteint ou pas? Enfin, je, voilà. Donc,
non, il serait devenu, agressif et indépendant.
Ça me rappelle des films.
Ouais.
Voilà. Donc, puis il y a plein de vidéos marrantes qui essayent d'expliquer aux gens que Amazon, c'est pas que un site qui vend, des chaises et des livres, mais c'est une boîte qui hoste. Alors je lisais même un article, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était, je crois que c'était 40% de l'internet et hébergé sur Amazon, enfin un truc un peu fou quoi. Voilà.
Mais en fait là c'est que une seule zone géographique sur les 23 qu'ils ont dans le monde qui est tombée, et ça fait tomber un nombre de sites qui est déjà dingue.
Ouais, ouais.
Ouais, bah après beaucoup sont chez East One, ou je sais pas laquelle qui est tombée, mais
j'ai une site. C'était une East, ouais.
Ça explique, hein. US East One, pardon. Et donc il y a un truc plus intéressant, c'est d'aller voir, parce que toi t'as mis l'article un peu qui explique les applications, mais il y en a un autre qui est le post-mortem AWS, qui est assez intéressant, et c'est quand t'essaies de lire entre les lignes, c'est intéressant. Alors déjà, c'est Kinesis qui est tombé. Et Kinesis, il se trouve que c'est utilisé par pas mal d'autres services Kubernetes, pardon, AWS. Alors, des fois, ils avaient des compensations temporaires quand un des services en dessous est en panne, mais ils sont arrivés à la limite de ces compensations temporaires. Donc, en fait, ça a eu un effet boule de neige sur, je sais plus, il y a CloudWatch,
sur pas mal de leurs services.
Ouais, pas mal de trucs. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller lire le post-mortem. Déjà, le problème qu'ils ont eu, c'est que ils ont une partie back et une partie front. Et sur la partie front, ils ont un système, bon, qui, alors, en rétrospect, est un peu débile, mais bon, tu fais avec, enfin, c'est facile de refaire le monde. Mais, en gros, c'est chaque front a une connexion avec l'autre front et ils se coordonnent. Donc, quand tu mets 5 serveurs, chaque serveur est connecté aux 4 autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un thread par connexion. Donc ils sont, du coup, ils n'utilisent pas Vertex, ça on le sait. Et au final, ils ont atteint la limite qu'ils avaient mis au niveau du système d'exploitation en nombre de threads acceptés. Et donc ils ont rajouté un serveur. Du coup, ça a demandé une connexion supplémentaire. Et cette connexion supplémentaire, elle pouvait pas être faite puisque le serveur, puisque le système d'exploitation avait déjà maxé son nombre de threads. Et donc il y a eu un effet cascade là-dessus. Et ils ont mis pas mal de temps à... Déjà, ils se sont trompés de chemin d'analyse. Ils n'ont pas réussi à trouver le problème. Donc, c'est en fait en augmentant le nombre de serveurs qu'ils sont arrivés à une limite théorique qu'ils avaient un peu oubliée.
Je serais curieux de connaître le nombre de threads quand même.
C'est pas le nombre de threads maximum du système d'exploitation. C'est qu'eux, ils avaient mis une limite en nombre de threads parce que j'imagine que pour leur environnement, le nombre de threads max de X... était optimal en termes de perf, tu vois. Après, il y avait de la dégradation, quelque chose comme ça. Et après, ils se sont dit, oh, on va mettre 1000, jamais on arrivera à 1000 serveurs. Tu vois, c'est un truc comme ça. Et donc, ils n'ont pas fait ce qu'ils appellent la cellularisation, c'est-à-dire l'isolation d'un certain nombre de front-ends par rapport aux autres pour pouvoir justement éviter ce genre de problème et basculer vers les autres cellules qui, elles, n'ont pas de problème. Donc, c'est là où on voit, AWS, c'est le gold standard, mais ils ont quand même du boulot, il y a encore des erreurs intéressantes. Ils sont super rapides quand tu regardes. En gros, ils avaient tout le monde sur le pont. C'était la grosse fête des États-Unis, la Thanksgiving. Ils avaient quand même tout le monde sur le pont, des corrections de bugs pour aller mitiger les problèmes, réduire les problèmes sur les services au-dessus en changeant leur implémentation de buffer, des mecs qui écrivent la correction de bug quasi en live et essayer de le redéploiement, etc.
Happy Thanksgiving.
Ouais. Et l'autre truc, c'est que leur système qui dit tous les services fonctionnent ou les services fonctionnent pas, malheureusement, avait une dépendance sur Kinesis.
Ah, c'est bon ça.
Donc pas de chance. Voilà, on va passer au web et front.
Ouais. Avec pour commencer Cargo Mobile. Donc si vous avez été attentif aux derniers épisodes des Caisses Codeurs, vous savez maintenant que Cargo, c'est un petit peu l'outil roi de Rust. Et donc Cargo Mobile, c'est un outil en ligne de commande.
Aucun rapport avec le Cargo de Vincent, qui était un système de déploiement des tests.
Oh oui, c'est vrai.
Non, là, ça permet de générer un projet Rust mobile, de le builder, de le faire tourner sur iOS et Android. Alors, pour le moment, ça fonctionne que sur OS X, mais il y a un petit appel à contribution. Si vous voulez faire le support pour Windows et pour Linux, l'équipe peut même vous guider un peu. Donc, ça peut être sympa si vous aimez Rust. Et puis, donc Jetpack Compose, donc qui a sorti la deuxième milestone. On avait parlé de la première dans le dernier épisode. Il y a un petit truc sympa qui arrive, c'est un Project Wizard qui est dans la dernière version de l'IntelliJ ID, donc il va vous permettre de démarrer votre projet avec un petit guide. Il y a une compatibilité avec des versions plus anciennes d'OS X, donc la 10.13 et la 10.14. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un composant qui s'appelle Compose Panel qui va permettre de mixer du Swing et du Jetpack Compose dans une sorte de G-frame. Et donc c'est là où clairement on en revient à ce qu'on disait au départ. Il y a une, je pense qu'ils sont en train de bosser eux sur une migration d'IntelliJ où ils vont abandonner Swing pour passer là-dessus et qui poussent le truc très très fort à l'extérieur aussi, quoi.
Oui, puisque c'est là justement là, Emmanuel, ce que tu disais, c'est que Compose là, il se base sur Skico. Et Skico, c'est un binding Kotlin, Skia, ouais.
Ouais, c'est ça. C'est Skija. Non, mais c'est là où j'ai pas compris. Parce qu'il y a Skija qui est le binding.
Oui, mais ça, c'est Java. Ouais, mais ça, c'est Java. Et Skico, c'est Kotlin.
Ah, Skico Kotlin. Ok, ça y est, j'ai compris maintenant. D'accord. Merci. Tu m'as.
Donc, il y a Skia tout en bas. Et au-dessus, il y a Skija. Skija.
Skija.
Et Skia pour Java et Skico pour Kotlin, et donc c'est ce qu'utilise Jetpack Compose apparemment.
D'accord. Bon, par contre, faut qu'ils embauchent un marketeur pour leur trouver des noms qui sont prononçables, parce que là, on va pas s'en sortir, nous. Hein.
Ouais.
Ok, on va passer à l'outillage, et attention.
Punaise, on l'attendait depuis une décennie, ça.
Maven 4.
Maintenant, on l'attendait plus, non.
Non, on l'attendait plus.
Maven 4 n'est pas sorti.
Maven 4.
Ça y est, la branche.
Moi, j'avais fait mon deuil. Hein. Maven 4.
Et je dois avouer que les changements, pour l'instant, ne m'ont pas cloué à mon siège. Mais...
Bah non, là, tu te dis, mais vous auriez dû faire une 3.8, c'est tout.
Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il y a des cassages de compatibilité quand même. Donc, il y a un moins R pour reprendre à partir du dernier module qui a échoué. Donc, c'est résume. Donc, Vous faites fonctionner, il y a 20 modules qui fonctionnent, 21e qui pète et les 40 autres derrière du coup qui fonctionnent pas. Du coup, si vous corrigez le problème, vous faites moins R et ça reprend à partir du 21e. Donc ça, c'est cool. Enfin, ça sera cool. Il y a moins PL qui gère maintenant les projets de manière récursive. Donc ça, c'est un des changements qui n'est pas backward compatible. Quand on met moins PL, par exemple UI, ça ne prenait que le module directement en dessous. Et là, ça va prendre le module en dessous et les sous-répertoires, qui est par exemple un des trucs qu'on utilise nous côté Quarkus. On a des choses un peu des étages de sous-modules de répertoires. Voilà. Il y a un flag pour faire échouer le build quand la sévérité warning est utilisée. Moi, bon, je trouve ça un petit peu extrémiste, mais bon après.
Il y a des adeptes.
Ouais. Non, mais moi, philosophiquement, effectivement, les warnings, personne ne les regarde parce que bon, tant que ça plante pas, en fait, on se dit bon, ça attendra la prochaine fois et effectivement, on les fait pas. Donc, à la limite, ça peut être forcé à être agressivement, à améliorer agressivement le code. Après, c'est n'importe quoi qui génère le warning parmi les, j'imagine, les, qu'on appelle ça, les plugins Maven. Donc, faut que, s'il y en a un warning qui t'embête, c'est un peu dommage, quoi. Et surtout, un autre truc super cool, les téléchargements qui ne passent pas le checksum vont échouer. Yeah! Parce qu'avant, ça passait pas le checksum, c'était quand même mis dans Maven local, ouais. Et puis c'était la merde.
Et puis, ouais, c'était pas cool.
Ouais.
En tout cas, moi, ce qui m'a fait marrer avec ce post, c'est que à plusieurs reprises, il parle de old bug, long standing bug et tout. Et je suis allé voir, il y a, donc il y en a un là, qui est résolu enfin avec l'Alpha 1, qui date de 2016. Bon, ok. Mais il y a quand même un bug qui date de 2006. Et il n'est pas encore fermé dans la 4 Alpha. Donc, voilà quoi. Maven 4, effectivement.
Ah. Et sinon, t'as qu'à demander à Audrey de le fermer, parce qu'elle elle travaille sur le projet Reactor. Et puis...
Ah, pas mal, pas mal, pas mal.
Elle ne savait pas, mais là, son monde vient de basculer d'un coup. Là.
Non, non, arrête.
Oui, Reactor, c'est vrai. Ouais.
Je repars, si c'est
va,
ça.
Elle va perdre okay. Les cheveux comme Arnaud maintenant.
Non, arrête.
Bon, et sinon, autre petit truc, ils vont faire un Maven Wrapper, comme on avait Gradle Wrapper, donc ça, c'est cool, par défaut.
Oui, par défaut, oui. Ouais.
Sinon, on parlait de M1, et en termes d'outillage, Homebrew, qui, pour les gens qui sont sur Mac, vient d'annoncer le support de Big Sur avec la version 2.6. J'ai cru que j'ai écrit 1.6, mais c'est la version 2.6.
J'ai corrigé.
Ah, la 2.6.
Ouais. Et puis le début du commencement du support de M1. Déjà, ils recommandent de l'installer dans un endroit dédié si vous voulez jouer avec. Et puis un autre truc, c'est qu'ils ont déprécié Brewcask, qui était un moyen d'installer des applications entières et pas juste des trucs de ligne de commande. Et maintenant, c'est juste un flag --, cast. Ce qui est pas mal parce que.
Ouais, nécessaire, parce qu'a priori, tu l'auras pas besoin partout, apparemment. À ce que j'ai compris.
D'accord. Ok. Donc, à suivre. Voilà, on va passer à la méthode. On va passer à quoi ? Oui, à la méthodologie.
Alors là, je vous avouerai que j'ai pas lu.
Alors moi, j'ai pas lu, j'ai regardé le talk, puisqu'en fait, l'article, c'est un compte-rendu avec les slides de la présentation hein, qui est en lien. Et alors c'est dommage que Guillaume ait dû nous abandonner parce que c'est lui qui l'avait mis.
Ah oui, on vous l'a pas dit, mais Guillaume il parle pas, mais c'est parce que
on en parce que ouais. Voilà.
Du coup, il s'est fait
Donc en fait ça parle de. Alors moi j'ai traduit ça dans les show notes sans faire le lien.
C'est bien parce que moi j'avais trouvé la colle. Ça c'est the glue. You're the glue. Dans une équipe, en fait. Oui, et moi, voilà. Je disais, oui, la colle dans une équipe, mais je me suis dit, quand même, ça a l'air un peu plus figuratif, je crois. Donc, le lien, c'est quand même vachement mieux.
Donc, effectivement, ouais, le titre original, c'est You're the Glue. Et en fait, c'est un, comment dire, la présentatrice a pris une approche de faire un narratif sur une personne qui est ingénieure au départ et puis qui arrive dans une nouvelle équipe et puis qui s'aperçoit que il y a plein de choses pas techniques mais pas essentielles pour autant qui sont pas faites. Donc elle va commencer par le faire. Donc c'est genre quand les nouveaux arrivent, tu les lâches pas comme ça dans la nature, tu essayes un petit peu de les encadrer, tu fais ce qu'on appelle un onboarding. Tu t'assures qu'on ship le bon produit, on ship quelque chose qui résout les problèmes des clients, pas juste le truc qui nous amuse, que la roadmap elle est à jour, etc. Et en fait, ce travail-là, il est pas considéré comme étant technique et donc il est souvent pas reconnu à sa juste valeur. Et ça fait que, au moment d'avoir une promotion, la personne va se retrouver pénalisée parce qu'en fait, on va lui dire bah oui, mais enfin regarde tes contributions, tu codes pas assez,
t'as pas fait de commit,
ouais. T'as pas fait assez de PR, etc. Et alors c'est intéressant parce que moi ça m'a un petit peu rappelé, tu sais, il y avait deux articles, Emmanuel, que je sais qui t'avaient beaucoup marqué sur l'espèce de pendule entre le management et la technique.
Ouais. Ouais, exactement.
Et
rappeler la même chose.
Voilà, ça m'a fait penser à ça parce que elle dit bien à un moment, elle dit le plus tu vas travailler à quelque chose et le plus tu vas t'améliorer dans cette discipline. Et on a ce côté où on assume que les ingénieurs ils savent les choses, mais non, en fait, quand ils sont arrivés, ils connaissaient pas. T'as un tas de choses à acquérir, un tas de choses que tu apprends en le faisant. Le management c'est pareil et du coup il y a cet effet vicieux où on peut te dire tu sais quoi, tu te débrouilles vachement bien en communication, t'as ce qu'on appelle les soft skills, t'as des bons soft skills et tout, fait manager. Et ce qu'elle expliquait, c'est que bah non, parce que déjà le problème, c'est qu'une fois que t'as fait ça, sauf si t'as un passé technique qui est vraiment bien assis, bah tu pourras pas revenir sur des postes techniques, parce qu'en fait les gens, les recruteurs extérieurs vont assumer que tu t'es parti là-dessus parce que techniquement t'es pas assez bon, alors que c'est pas forcément le cas. Et du coup, tu pourras pas y revenir. Et il y a un truc où j'aime bien, à un moment qu'elle dit, c'est quelqu'un qui dit à la personne, au personnage qu'elle a inventé pour son talk, de dire, qui lui dit, ouais, mais t'es super bonne en communication. Et la personne lui répond, bah ouais, comme tous ceux pourquoi j'ai du temps pour apprendre en fait. Et si tu me laisses du temps pour apprendre autre chose, tu verras que je suis aussi bonne dans autre chose.
Ouais, c'est ça. Tu genre, bah si tu me laissais faire du travail système, tu verrais comme je serais voilà. Bonne aussi. D'ailleurs, en fait, juste le point, juste pour clarifier, parce que on dit pas qu'il faut pas faire le glue code. D'ailleurs, en fait, c'est, je sais chez Red Hat, mais j'imagine chez plein de boîtes dont l'ingénierie est vraiment importante, c'est ce glue code, enfin cette partie glue entre l'équipe, c'est ce qu'on attend des ingénieurs seniors et avancés pour progresser. On leur demande pas d'être les dieux vivants de telle partie de Java, on leur demande d'être capable de faire le lien entre le business, les autres équipes, les amener vers une vision avec toutes ces parties qu'on appelle soft skills. Et c'est comme ça que tu progresses pas. Et donc, ce qu'elle dit, elle, c'est attention, si vous faites ce virage trop tôt, vous n'allez pas avoir la fondation solide pour aller au prochain niveau, ou alors la perception sera pas là. Donc, voilà, c'est ça la petite alerte qu'elle met justement dans son talk.
Et puis elle insistait aussi, moi il y a un truc qui m'a fait rire dans sa présentation, elle insistait sur le fait que il faut pas y aller parce qu'on te dit que t'es bon ou t'es bonne là-dedans et que ça sera mieux pour toi. Elle faisait une analogie avec le grand 8 en fait, que je trouvais intéressante. Et elle disait mais c'est bon, moi j'ai la taille requise, mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'y aller. Hein. Les gens ils ont la tête en bas, ils hurlent et ils vomissent.
C'est tout bon ça.
Et elle dit bah voilà, le management c'est pareil en fait. Moi j'ai les compétences pour, mais j'ai pas forcément envie d'y aller. Et elle expliquait que justement à force de pousser les gens parce qu'ils ont des soft skills à dire bah non, bah tu peux pas faire de la tech et puis va là-dedans et puis bah tu permets pas aux gens de devenir des bons tech parce que tu deviens pas techniquement bon comme ça, tu deviens techniquement bon parce que tu as travaillé dessus.
Vous l'avez peut-être déjà vécu ou vu dans les équipes, il y a des gens ils disent non mais globalement il faut faire ce truc là et il y a personne qui il faut sortir les poubelles quoi. Il y a personne qui sort les poubelles. Donc ils le font par sacrifice pour l'équipe. Ils vont sortir les poubelles. Et ils font un truc qui est... Alors, sortir les poubelles, là, c'est hyper négatif comme truc. Mais c'est le truc, si on sort pas les poubelles, c'est la panique. Ou très vite. Et donc, c'est hyper important. Et c'est effectivement... Il y a des gens, ils sont compulsivement... Ils sont plutôt dans le sacrifice pour l'équipe. Enfin, dans la vision pour l'équipe et pas la vision personnelle. Et du coup, se retrouvent à faire toutes ces tâches-là. C'est comme quand tu mets 4 mecs de 20 ans dans un appartement... Le premier qui craque et qui se met à nettoyer, c'est celui qui est le plus sensible à vivre dans la crasse, en gros. c'est le même problème.
Ouais.
Donc elle a quand même quelques solutions. Déjà, oui. C'est d'aller parler à son manager et de discuter. Est-ce qu'on peut reconnaître que je fais un travail utile pour la technique, qui est ce travail de liant. Donc, est-ce que je peux avoir un titre qui reconnaît ça pour que les gens disent « Ah non, mais elle n'est pas juste… »
Elle n'est pas juste manager, product manager ou etc. Elle continue à faire de la technique.
Un voilà. Chief Glue Officer.
Voilà, donc nous, par exemple, Release Coordinator, c'est un rôle que tu pourrais qualifier de pas technique, mais parce que la personne, il faut qu'elle regarde tout le code, qu'elle regarde les cohérences, de voir « bah tiens, non, si tu fais ça, tu vas péter tel truc », de décider qui sort à un moment donné versus pas, c'est hyper important et c'est il y en a qui adorent et il y en a qui trouvent ça ingrat d'ailleurs.
Et voilà. Justement, vu que ça plaît peut-être moins, est-ce que c'est des postes que vous faites votre tournée ou pas, ou c'est toujours la même personne qui s'y colle?
Ça dépend des équipes. Nous, par exemple, Guillaume Smet, il adore, donc voilà, on lui laisse. Mais pour Quarkus, mais sinon, il y a d'autres équipes où ça tourne parce qu'il y a justement, il n'y a pas cette vision d'équipe ou soit cette affinité à ce problème-là dans certaines équipes. Donc, on fait des choses tournantes aussi des fois, ouais. Qui force les gens à rester sensibles à ces problèmes-là.
Ouais, ouais.
Ça, j'aime bien. J'aime bien.
Il y a ça aussi, oui, oui.
Ça permet que tout le monde prenne conscience de la valeur de ces tâches-là, en fait, qui sont, ouais, qui sont pas bien valorisées, mais qui sont nécessaires.
Ouais. Après, Guillaume, il se fait reconnaître sa valeur, sinon il file une tarte dans la gueule à celui qui suit pas les process. Donc, on n'a pas le problème. Non, je rigole. Et c'est hyper important tout ce genre de travail. Donc, l'autre chose avec son manager, c'est d'aller discuter un chemin de carrière. Alors, attends, si je continue à faire ça, est-ce que je vais être promu ou est-ce que, en fait, je sers à rien du point de vue de l'évolution de carrière? Donc, ça, c'est un point important. S'il te dit, non, en fait, pour ta carrière, avec ça, je pourrais pas te faire monter, parce que c'est souvent pas le manager qui veut pas te faire monter, ou peut-être d'ailleurs, mais c'est souvent aussi les grilles d'évaluation qui font qu'elles sont trop orientées vers il a produit tant de code, il a réalisé telle feature, du coup, qui reconnaît pas ces choses-là. Et du coup, ce qu'elle propose, c'est, même si ça peut blesser la personne, c'est d'aller stopper temporairement de faire la colle, de faire le liant, et de dire... Ok, j'arrête, on va laisser la poubelle grossir. Puis moi, du coup, je vais pouvoir avancer sur les tâches techniques et montrer ma valeur aussi.
Je préciserai juste, quand tu dis blesser la personne, c'est que c'est la personne qui justement fait naturellement ces tâches-là qui va être blessée.
Ouais, c'est contre son instinct d'aller pas faire le truc qui doit être fait, en fait. Voilà, cette notion
de pas faire les interviews, de pas aider les juniors qui arrivent, les choses comme ça. Mais en fait, pour que ce travail soit reconnu, alors c'est l'extrême. Elle le dit bien, hein, elle dit si vraiment il y a rien qui marche, vous faites ça, vous allez voir. Effectivement, très vite, ça va sentir mauvais dans le bureau, quoi.
Ouais. Enfin bon, on n'est pas dans les bureaux maintenant, mais...
Non, c'est vrai.
Ok, on va passer à la sécurité.
Oh non.
On n'en a qu'un. Ah non, on en a deux d'ailleurs. Alors, le premier. Bref. Alors, il y a une attaque qui s'appelle SAD-DNS, qui est un truc un non rétrofité, mais donc qui est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire. Donc, en 2008, il y a une attaque qui s'appelait l'attaque par poison de cache. En fait, le DNS, c'est il y a votre machine qui demande à partir d'un nom de site d'avoir l'IP. En général, il va pas directement vers le DNS qui a cette info-là, mais il passe par un ou plusieurs DNS intermédiaires. Ces DNS intermédiaires, ils vont aller demander à un DNS de référence l'information et puis après le ramener. Et historiquement, le protocole, c'est dans les années 60, donc tout le monde se fait confiance. Et donc, c'est en UDP, non crypté, non chiffré. Donc, c'est pas DNS over HTTPS qui est quelque chose qui est activable, voire même activé par défaut maintenant, je crois, dans Firefox et un certain nombre d'autres. Et ce qui se passe, c'est que pour identifier la requête, c'est identifié sur 16 bits. Donc 16 bits, c'est pas beaucoup d'entropie, c'est genre 65 000 options. Et du coup, il y avait une technique qui permettait de dire quand je vois passer, je sais qu'il y a des requêtes entre ce DNS resolver intermédiaire et les DNS finaux. Et du coup, je vais aller générer un paquet UDP que je peux forger au DNS qui je vais envoyer au DNS intermédiaire sur le port sur le port DNS de base et je vais en envoyer 65 000 et il y a des chances que si je réponds plus vite que le DNS d'autorité, eh bien il va croire que c'est la bonne réponse et du coup il va mettre ma valeur et du coup au nom lescascodeurs.com, je vais mettre l'IP qui tombe sur le site d'achat-vente de Bitcoin frauduleux. Ils sont aperçus de ce problème-là en 2008 et ils se sont dit « Oups, là, c'est la panique ». Donc, ils l'ont pas sorti. Ils ont parlé avec les grands DNS providers de l'époque et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé une solution technique qui était de demander au serveur DNS là d'avoir des ports... plus aléatoire, donc c'était pas tout le temps le port, je sais plus quel port c'est, mettons 51, ils étaient des ports aléatoires. Du coup, ça réaugmentait l'entropie à des valeurs qui étaient plus accessibles au niveau de l'attaque par brute force dont j'ai parlé. Si vous m'avez suivi, parce que je suis pas hyper sûr que vous m'avez suivi.
C'est bon, on te suit.
Ça va? Ok. Et donc là, il y a quelqu'un qui a trouvé une autre attaque qui utilise le protocole ICMP. Alors, le protocole ICMP, c'est un peu le méta-protocole au niveau TCP. Ping, par exemple, c'est une des commandes du protocole ICMP. Et l'idée, c'est de deviner le sous-ensemble de ports à checker. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que l'entropie, elle a augmenté parce qu'on pouvait taper les 65 000 ports potentiels qui sont disponibles sur une machine. Mais si on est capable de réduire l'ensemble des ports à tester, on peut gagner. Donc, ce qui est fait, c'est que on envoie des... Alors, c'est là où j'ai pas tout compris, en fait. Mais c'est, on envoie des commandes ICMP pour vérifier si le port, s'il est ouvert ou fermé, en gros. Et ça, la commande ICMP, en général, soit elle répond fermée, soit elle répond rien. Ça, c'est les modes stealth. Et en fait, il y avait déjà eu des failles de sécurité et des gens qui utilisaient les appels ICMP pour faire ce qu'ils appellent des attaques par... comment on appelle ça ? Les attaques par levier, ce qui fait que je fais une demande ICMP qui me prend 2 bits et puis ça me renvoie une réponse de genre 50K, ce qui fait qu'il y a un effet exagération dans la réponse. Et du coup, ça pouvait faire des attaques de déni de service. Voilà, donc Linux vous limite à 50 réponses ICMP, enfin requêtes ICMP par seconde, et puis à la 51e, il va juste pas répondre. D'accord ? Et ça... ça c'est une faille de sécurité parce que ça laisse passer de l'information. Ça laisse passer l'information qu'on en a, il y a eu 50 demandes et que la 51e elle est refusée. Donc voilà ce qui se passe. L'attaque, c'est là où elle est intéressante. L'idée, c'est d'aller réduire le nombre de ports qu'on a à tester, pas les 65 000, mais idéalement peut-être que 50. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des requêtes, plein de requêtes ICMP, genre sur 50 ports par seconde. Et on laisse passer ça. Et ensuite, on fait une autre requête ICMP sur le même range, en fait. Et c'est là où il y a une subtilité que j'ai pas compris, mais je crois que les 50 requêtes ICMP ont fait du spoofing d'IP, c'est-à-dire qu'on les envoie à un des serveurs DNS, je crois le serveur d'autorité. Et après, c'est l'attaquant qui va faire cette 51e requête ICMP. Et donc là, il y a plusieurs options. Soit les 50 ports étaient fermés. Et à ce moment-là, quand moi, attaquant, je fais ma demande ICMP, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que Linux a décidé qu'il y avait déjà eu 50 requêtes et que je vais pas en faire une de plus. Du coup, là, je sais que les 50 ports étaient fermés puisqu'il y a eu des réponses qui disaient ces ports sont fermés. Par contre, si un des ports était ouvert, les 50 requêtes ICMP, ce qui se passe, c'est qu'il y en a 49 qui ont répondu « Désolé, le port est déjà fermé ». Et la 50e qui va répondre « Ok, le port est ouvert », un truc comme ça. Et celle-là, elle ne compte pas dans la liste des 50 max par Linux, pour une raison ou une autre que j'ai pas explorée. Du coup, quand moi, attaquant, je fais ma 51e requête, s'il me répond « Rien », c'est que les 50 ports étaient fermés. S'il me répond « Oui », ça veut dire que un des ports était ouvert. Et donc après, là, je fais de la dichotomie. Ou alors, soit je fais une attaque brute sur 50 ports, sur un des 50, soit je fais une requête par dichotomie pour réduire encore le nombre de ports. Voilà. Et donc ça permet d'aller casser l'entropie qui avait été rajoutée en rajoutant le nombre de ports en variable, finalement, d'entropie dans le protocole. Donc bref, la vraie solution, c'est de passer à DNS sec. Voilà, même moi j'étais curieux à un moment, mais en tant que non expert du machin, c'est pas le truc que tu fais tous les jours facilement. Donc bref, je l'ai jamais fait. Mais voilà, donc cette attaque, elle est pas hyper facile, mais elle est faisable. Et puis après, Cloudflare et d'autres ont commencé à mettre des stratégies de remédiation diverses et variées pour essayer de réduire le risque à ce niveau-là. C'était mon explication de ça, DNS.
Eh ben, bravo, hein. Ouais. Bravo, bravo.
Alors, moi, je dis, je me fais souvent bâcher que je passe un peu trop de temps sur le web, loi, société, organisation, mais Manu et la Sécu, on en parle.
Là,
ou pas
en sécurité, là.
Hein?
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien.
On n'avait pas remarqué. Ouais.
Bon, sinon, est-ce que Apple enregistre toutes vos applications que vous exécutez? Au moment de la release de Big Sur, visiblement, il y a des gens qui essayaient de démarrer leurs applis et puis ça démarrait pas. Donc, ils se sont dit, il y a un bug. Et au final, c'était des serveurs côté Apple qui répondaient pas. Enfin, qui répondaient qu'ils étaient là, mais qui donnaient pas la réponse. Du coup, c'était pas genre, je suis pas là, fais comme si j'étais pas là. C'était, non, je suis là, et puis ils répondaient pas. Du coup, il y a eu toute une fleurie de gens qui disaient oui, il y a Apple qui écoute à chaque fois qu'on lance des applications, ça log les IP, donc ils savent exactement qui utilise quoi.
Casser votre webcam, briser votre webcam.
Voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est un peu de n'associez pas à la malice ce qui peut être associé à l'incompétence. Non, en fait là,
même chez eux.
Même chez eux. Non, en fait, c'est pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un truc qui valide les applications. Elles ont un certificat, donc elles sont signées. Et ce certificat, si tu signes mais que tu vérifies pas le certificat, ça sert à rien. Donc ils ont un protocole de validation de ces certificats qui va appeler Apple. Et donc il y a un protocole qui s'appelle le stapling, donc le OCSP. Je me rappelle plus exactement le, je sais pas à quoi le O correspond, mais c'est Certificate Stapling Protocol. Et en gros, celui-là, il vérifie qu'un certificat n'a pas été révoqué. C'est-à-dire que le certificat, il peut être là, mais le deuxième avantage de ce protocole et de cette approche-là, c'est que quelqu'un dit, je me suis fait voler mon certificat, je vais le révoquer.
Online.
Ou Apple online, merci. Ou Apple dit, cette personne-là, en fait, c'était un mauvais acteur, donc je vais lui geler son certificat. Ce qui fait que quand la machine, elle dit, tiens, ce certificat, il est valide ou pas? Si la réponse est non, il est pas valide, en fait, c'était une attaque, et ben à ce moment-là, l'application va pas démarrer. Donc ça c'est utile. Et ce qui est envoyé, c'est pas le nom de l'application, c'est le hash du certificat. C'est-à-dire que si un acteur, par exemple Adobe, utilise le même certificat pour toutes ses applications, c'est juste le hash du certificat Adobe qui va être envoyé et pas le nom de l'application. En vrai. D'accord? Donc il y a une raison fonctionnelle derrière ça. Après, ils ont eu un bug sur leur serveur qui répondait mais qui faisait rien. Du coup, ça
qui était stocké sur Amazon. Sur AWS.
Ouais, ça m'étonnerait, mais je crois qu'ils l'ont eu, ils l'ont eu été, mais je crois plus qu'il y soit encore. Et c'est pas fait à chaque fois, c'est fait régulièrement. Le OCSP, il a une expiration, en fait. Je sais pas si c'est un jour ou quelques jours, mais en fait, il y a une expiration. Et, ils ont promis de ne plus loguer les IP. Donc, ils vont, après, on faut les croire à ce qu'ils disent et pas, on peut pas vérifier, mais ils ont dit qu'ils allaient enlever de leur log l'IP. Pour pas justement avoir de lien entre l'IP et qui a fait la demande pour savoir qui utilise quelle application. Voilà, donc ça c'était la réponse technique au Floride qui a été montée. Et donc comme on vous a dit, on va pas faire de loi société et organisation. Sauf que si, on va quand même en faire deux.
mais attends, je pouvais pas enlever cette news à Antonio.
Donc il y a un petit article de Guillaume qui paie à son âme, du coup à son âme virtuelle dans cet épisode, qui parle des 9 phases d'un contributeur open source, qui explique, au début on a un projet, on a l'idée, c'est super, et il y a qu'une personne qui code, donc le projet lui appartient entièrement, t'inventes le truc, t'implémentes le MVP. Tu agrandis pour les bases solides, t'écris la doc, tu commences à devoir marketer le projet, donc tu fais un peu moins du corps du truc. Puis la deuxième phase, c'est que le projet, il est un peu plus pour les autres que pour toi, tu te mets à recruter d'autres contributeurs, et là tu vas faire, c'est un peu, on en discutait avec Kotlin, la personne qui a cofondé Kotlin. Au bout d'un moment, elle était plus forcément à faire le code, mais à discuter des approches technologiques, des choix, de la roadmap, de cultiver la culture de la communauté, faire plus de la supervision. Et puis après, soit tu te fatigues, soit le projet, il n'a pas de succès, donc il meurt avant toi, soit tu te fatigues avant que le projet alors que le projet a encore de la valeur pour plein d'autres gens. Et donc, c'est là où tu vas essayer de laisser la main et de faire une transition, ce qui est jamais nécessairement super facile, ni pour l'humain, ni pour le projet. Donc voilà, j'ai fait le résumé de l'article, mais ça explique un peu les différentes phases d'un contributeur open source. C'est pas juste, je code du truc qui me fait plaisir et c'est cool. Si vous voulez faire que ça, faut accepter que votre projet, il n'est pas de succès parce que sinon, vous faites un projet juste pour vous, mais pas forcément pour les autres. Enfin, il y a un côté paradoxal ici, pas paradoxal, mais il y a un côté de, je sais pas comment expliquer ça. Il y a un aspect supplémentaire au fait de dire je le mets en open source où je balance le code, et je le mets en open source et j'essaie de construire une communauté idéalement si ça prend. Et ça, c'est des travaux très très différents.
Et d'ailleurs, il y avait deux, trois, il disait la partie où tu écris de la doc dans la première phase. Bah évidemment, c'est jamais la partie qu'on préfère, mais c'est essentiel parce que si t'as plusieurs projets qui en parallèle vont faire un peu la même chose, c'est probablement celui qui sera le mieux documenté qui,
ouais,
qui sera le plus populaire. Et comment dire, et puis le côté, alors ça on sentait que c'était un petit peu plus amer, mais quand tu fais la partie marketing, bah tant pis si t'es pas le meilleur, en gros c'est celui qui fera le meilleur marketing qui va gagner, quoi.
Ouais, parce que bah bon, en fait c'est après que c'est comme le marché, mais aujourd'hui les gens ils sont pas à dire bah tiens j'ai 15 jours pour essayer de trouver mon nouveau système de log, ils sont entendu des choses, donc ils ont déjà présélectionné par les choses qu'ils ont entendues, ensuite ils vont faire une petite analyse de une heure chaque truc. Et donc la doc va aider, et après ils vont aller faire un POC avec celui qu'ils ont prédéfini, puis si c'est bien ils avancent. En gros, hein. Enfin c'est ça le chemin.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ok, et donc bon, on le savait déjà, mais digital ça veut dire avec les doigts, donc il ne faut pas dire digital, mais il faut dire numérique. Et donc ça, Légifrance a légiféré. C'est ça?
Ouais, c'était marrant de voir que en fait ils ont leur PR aussi, puisque. Ça fait ça fait 10 lignes, donc au journal officiel, il vous dit, enfin il y a l'article 1 et l'article 1 qui fait une ligne, il dit juste il faut remplacer digital par numérique. Imaginez, vous faites une PR où vous remplacez le terme digital par numérique. Ben c'est ça, en fait vous avez un quart de page qui dit article 1 de l'aliénéa 9 du machin du bidule, maintenant il faut dire digital et numérique.
Il faudra qu'on leur propose notre algorithme de diff parce qu'il est quand même un peu plus compact.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que tout ça pour un diff, ça fait un peu too much. Voilà.
Mais c'est vrai, ouais, c'est une belle remarque. Une belle remarque. Ok, on va passer à la rubrique débutant.
Ouais. Avec un petit article qui vous donne 7 façons de contribuer à Java. Parce que c'est vrai que ça paraît pas toujours évident. De savoir comment est-ce qu'on peut contribuer justement sur quelque chose d'aussi gros qu'un langage qui a 20 ans, 25. Donc il y a plusieurs points qui sont proposés. Le premier, c'est de rejoindre la mailing list OpenJDK, ça pour évidemment vous permettre de suivre les évolutions au plus près. Ça peut être de suggérer une nouvelle JEP, donc Java Enhancement Proposal. Si vous voyez une fonctionnalité qui d'après vous vous manque, une amélioration qui pourrait être possible, ça peut être de tester, de trouver des bugs dans les dernières versions qui sont livrées. Ça peut aussi être de contribuer à fixer un bug qui est listé dans le Jira OpenJDK, ou carrément de contribuer à une JEP, hein, si vous vous en sentez le courage. Et puis, ça peut être aussi plus simplement de relayer la publication des releases, en fait, d'en parler autour de vous, soit, je sais pas, vous donner un petit meet-up en ligne pour présenter les nouvelles versions, ou vous écrire un petit article de blog, voilà. L'auteur dit bien que ça n'a pas besoin d'être un truc immense, en prenant l'exemple de Simon Reiter, qui est un excellent développeur advocate, qui était auparavant développeur advocate chez Oracle, et qui fait des petits articles courts d'une quinzaine de lignes, je crois. Et puis, ça peut également être de documenter les nouveautés sur fuji.io, qui est un site, en fait, qui permet de voir, visualiser assez simplement les différences, en fait, entre versions.
Alors moi j'ai plus trop suivi là depuis que j'ai quitté le JCP, etc., etc. Mais sur la JEP, il met quand même if your company is deeply integrated. Donc je me demande si un individuel peut suggérer une JEP ou est-ce qu'il doit appartenir à une boîte, et si comme à l'époque il fallait signer ce fameux document là qui faisait un peu peur, où tu vendais ton âme à Sun puis Oracle. Donc je sais pas comment on crée une JEP, mais comme il parle de boîte, je me dis tiens, est-ce qu'un individual peut le faire? Et je vous avouerai que je sais pas trop, j'ai plus trop suivi.
Un individu peut le faire, puisque je pense que Rémi il travaille dans ce contexte là. Et après, je me rappelle plus si le fameux Sun/Oracle CLA c'est toujours d'actualité dans OpenJDK. Je t'avoue, je crois que oui, pour être très honnête.
Ouais, parce que le document, il faisait un peu peur, hein, surtout quand t'es pas bilingue, le truc il fait 10 pages. écrit en tout petit, en anglais, pas facile.
Contribute, étape zéro, become a contributor. Donc, il faut que tu signes oui, le contributor agreement.
D'accord.
Qui dit que tu partages ton... Bon, que tu as pas volé le code quelque part, j'imagine. Et puis l'autre, c'est que tu partages ton code avec Oracle. Donc Oracle reste le co-owner de tout le code, en fait. J'imagine. J'imagine que c'est ça. Voilà. Bon, bref, on a la réponse en direct live, comme dirait je sais pas qui. Voilà, conférence. On a Web Stories Conf. Qui est en ligne, qui est prévu pour le 5 février 2021. Donc c'est en ligne à Lille, mais du coup c'est en ligne, donc vous voulez.
Et puis, anywhere.
Ouais. Et le DevFest Lille, qui est le 11 juin. Alors est-ce que c'est toujours en présentiel? Oui, elle est toujours en présentiel pour l'instant. Au moment où je vous parle.
Et la grosse nouvelle depuis hier, ouais. C'est que DevOps France aura lieu en présentiel au mois de juillet. C'était.
D'accord.
Vous savez que DevOps France. Bah voyons.
Bah déjà, elle n'est pas sur les news.
Ouais.
Du podcast. Bah oui, non, mais je lisais là et là, je me dis, tiens, flûte, je ne l'ai pas mis.
Non, mais on sait qui sort les poubelles. Hein,
on sort qui sort les poubelles. Et voilà, en fait, vous savez que depuis le début, DevOps France est au mois d'avril, et donc ça faisait quelques mois là qu'on était en pourparlers avec le Palais des Congrès pour pousser la date, parce que avril, ça sent pas bon. Et voilà, donc la nouvelle, c'est que ça sera début juillet en présentiel. Je vous cacherai pas que ça va pas être le DevOps avec 3000 personnes, etc., etc. On vous en parlera plus. Ça sera un truc, voilà, un peu amoindri par endroit, quoi.
Mais, 6 personnes.
6 personnes, voilà. On 6 personnes dans le palais. Des
congrès. 5 personnes et puis voilà, c'est tout.
Non, et puis quand même, lundi prochain, avec Emmanuel Bernard, on est en remote sur le Singapour Jug.
Oui. C'est vrai. C'est mardi, mais...
Ouais, ah oui, mardi. T'as raison. Ah oui, flûte, t'as raison.
C'est mardi à midi.
Oui,
midi à 13h. Et c'est sur le Singapour Jug. Sauf qu'il paraît qu'il y a quand même pas mal de Français de France qui sont inscrits, donc vous pouvez venir. Si on a publié l'article, enfin plutôt le...
But we will speak English.
On va, oui. Mais si on a publié les cascodeurs d'ici là et que c'est pas dans le passé ce qu'on vous raconte, vous pouvez nous rejoindre en ligne au Chuck de Singapour.
Mardi 15. Mais tout ça aussi pour dire qu'il y a pas mal de, user groups qui font des trucs en ligne. Je sais que le Paris Jug a fait un truc là il y a peu de temps. Voilà. Donc, ça continue. Il y a pas mal de petits meet-ups en ligne. Voilà.
Eh bien, c'est un épisode où on voulait faire une heure. On a fait une heure et demie, mais vu le nombre de merdes qu'on a enchaîné, je crois qu'on était plutôt pas mal. Donc, pour info, on a perdu Guillaume, on a perdu la moitié des
le casque d'Audrey.
On a perdu le casque d'Audrey. On a pété. Ah oui, on a fait tomber le micro d'Audrey, ce qui a arrêté l'enregistrement au milieu. Quoi d'autre?
Bon. Bah, c'est le dernier épisode. 2020 avec une année très 2020.
Il y a l'image de cette année. Il est temps que ça s'arrête.
Tout à fait. Il est temps qu'on passe à 2021.
grave. Bon. Eh bien, sur ce, on va vous laisser en croisant les doigts qu'on arrive à sortir un épisode que vous allez entendre.
Voilà.
Et puis voilà.
Mesdames et messieurs, ciao.
Salut.
Ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.